Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est dimanche que les Français voteront pour les élections européennes et cela signifie que l'on peut s'attendre demain à une avalanche de sondages puisque ce sera le dernier jour où leur publication est autorisée par la loi. Ce sera le bouquet final puisque désormais chaque campagne électorale est scrutée en permanence, au quotidien même, par les enquêtes d'opinion. Les sondages font eux-mêmes partie du débat, souvent dénoncés par les candidats, surtout lorsqu'ils ne leur sont pas favorables. Ils sont accusés au choix de se tromper, de mentir, d'influencer le vote en faveur de tel ou tel candidat et au profit de soutiens supposés. À quoi servent les sondages? C'est la question du jour. Et pour en parler, nous recevons deux invités avec nous en studio. Frédéric Michaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département opinion et politique d'Opinionway, auteur de La prophétie électorale, les sondages et le vote. C'est paru aux éditions du CERF. Et en duplex de Lille, Nicolas Cassiaf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lille, spécialiste des études d'opinion, auteur de Critiques des sondages, des controverses scientifiques aux implications politiques, paru à la Fondation Varenne. Frédéric Michaud, depuis le temps que vous êtes dans le métier de sondeur, vous avez tout entendu en termes de critiques des enquêtes d'opinion, je suppose. Comment vous définiriez la fonction d'un sondage ?
La fonction d'un sondage, alors il y a plusieurs fonctions parce qu'il y a plusieurs usages, mais peut-être la fonction première, c'est de donner des informations, de fournir des informations sur les comportements, les perceptions, les jugements, les attentes, les valeurs d'une population donnée.
Nicolas Cassiaf, comment vous définissez un sondage? Comment ça doit être utilisé?
La définition de Frédéric Michaud, je la partage tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, sa fonction, c'est d'offrir un certain nombre d'éléments d'information pour nourrir le débat public ou pour nourrir l'argumentaire de celles et ceux qui commandent ces sondages ou pour leur permettre d'agir dans le cas de sondages confidentiels.
La prophétie électorale, les sondages et le vote, c'est le titre de votre livre, Frédéric Michaud. La valeur prédictive d'un sondage, on nous dit souvent, et notamment de la part des sondeurs, le soir des élections, qu'elle est nulle, que c'est une photo à un instant T de l'opinion. Est-ce qu'on peut néanmoins dire qu'elle augmente à mesure que l'échéance se rapproche ?
Oui, évidemment. Vous avez raison de rappeler ce que vous venez de dire. Les instituts français, la position française des instituts depuis la création des sondages en France consiste à dire que les intentions de vote ne sont pas prédictives du résultat le jour du vote. Il y a beaucoup d'instituts qui inscrivent cette phrase dans les rapports de résultats qu'ils publient. J'observe que ce n'est absolument pas le cas de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, qui est le berceau des sondages et des intentions de vote, où l'activité prévisionnelle est tout à fait acceptée, elle est même revendiquée par les instituts depuis l'origine. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette différence de positionnement de part et d'autre de l'Atlantique? Je crois que les sondeurs français ont cherché à se prémunir contre d'éventuelles erreurs des intentions de vote. Mais pour revenir à votre question, je pense qu'on peut résoudre en fait ce dilemme entre est-ce qu'elles sont prédictives ou pas, justement en prenant cet indicateur qui est celui de la cristallisation du vote. C'est-à-dire que si la décision électorale est avancée, si elle est affirmée, en clair, si les électeurs savent pour qui ils vont voter, dans ce cas-là, les intentions de vote offrent une prévision de ce que peut être le contour du scrutin le jour J. En revanche, si le vote n'est pas encore arrêté, si la décision est encore en cours d'élaboration, évidemment, tout cela est très instable et très volatile, et par conséquent, les intentions de vote n'ont pas cette dimension prévisionnelle. Mais dire elles sont toujours prédictives ou bien elles ne le sont jamais, je pense que ce sont deux excès et que, comme souvent, la vérité se situe au milieu.
Nicolas Cassiaf, il y a un moyen terme entre les deux, cette idée de plus on se rapproche du vote, plus c'est prédictif?
Effectivement, une enquête d'intention de vote qui est réalisée plusieurs semaines avant un scrutin, à un moment donné où non seulement l'offre électorale n'est pas totalement stabilisée et surtout dans le contexte actuel, les choix des électeurs sont particulièrement volatiles. Beaucoup de personnes se décident au dernier moment, y compris simplement d'aller voter. Ça n'a pas de sens, en fait, de considérer qu'il y aurait une forme de prévisibilité de ces intentions de vote plusieurs semaines avant le scrutin. Il reste qu'à mesure que le scrutin se rapproche, effectivement, les intentions de vote, surtout dans le contexte d'une élection nationale, comme l'élection présidentielle ou comme ces élections européennes, disons que à ce moment-là, les résultats proposés par les instituts, notamment quelques jours avant le scrutin, sont relativement prévisibles. C'est ce qu'on a pu observer lors de la dernière présidentielle. Disons que les dernières intentions de vote publiées le vendredi, deux jours avant le premier tour, étaient quasiment similaires à ce qu'on a pu observer le dimanche. Donc il faut savoir les lire avec attention. Une des difficultés, c'est que ça produit des effets sur les candidats eux-mêmes, sur leur stratégie de campagne, sur leur attitude, parce que ils leur accordent énormément d'importance et ça détermine les logiques de ralliement, de soutien. Voilà.
Ouais, on va prendre un exemple. Et oui, Frédéric Michaud, c'est l'heure de la question piège. Aujourd'hui, tous les sondages donnent le Rassemblement National en tête, suivi de près par La République En Marche, par la liste Renaissance. Un retournement est-il possible d'ici à dimanche ou est-ce qu'il est improbable ?
Il est statistiquement possible. C'est toute la différence entre la prévision et la prédiction. La prédiction consiste à dire que les choses vont nécessairement se passer de la façon dont elles sont indiquées. On est dans un univers déterministe. Ce n'est pas le cas des intentions de vote. Les intentions de vote font de la prévision électorale. La prévision électorale consiste à dire que les choses devraient se dérouler de la façon indiquée, toutes choses étant égales par ailleurs.
En l'occurrence, Nicolas Cassiaf, là, le vote n'est pas cristallisé, il y a une forte abstention, les gens ne sont pas encore décidés, c'est ce qu'on constate dans les enquêtes.
C'est extrêmement compliqué, surtout que l'offre électorale, elle est pléthorique.
34 listes, c'est ça.
34 listes, avec une très forte indétermination entre les listes au sein d'un camp donné, je pense notamment à gauche, où il y a vraiment une très forte pluralité de listes, et beaucoup de personnes ne savent pas encore précisément s'ils vont aller voter, et précisément voter pour qui. Donc il y a encore un univers d'imprévisibilité qui est assez fort. Reste que les grandes tendances, elles ne sont pas amenées à bouger. Disons qu'il est très très peu probable qu'on observe de fortes variations entre les enquêtes qui seront publiées demain et les résultats qu'on pourra mesurer dimanche soir.
Vous avez commencé à l'évoquer, Nicolas Cassiaf, et je vais vous demander votre avis là-dessus, Frédéric Michaud. Comment les sondages sont-ils devenus un élément du débat politique ? C'est-à-dire que les candidats, chaque camp s'en saisit et en parle pour soit les dénoncer, soit les accusés d'être manipulés. Comment est-ce qu'on en est venu là ?
On en est venu là grâce ou à cause des médias. Ce sont les médias qui rendent publics les sondages. La plupart des études que nous réalisons sont des études confidentielles. Nous travaillons confidentiellement pour des partis politiques, pour des élus, pour des candidats. Ces sondages ne sont jamais révélés. Ce sont la grande majorité de nos études.
Quand vous dites la grande majorité de vos études, c'est-à-dire, je ne sais pas, pour un sondage public OpinionWay, vous en faites combien pour les partis politiques, des sondages d'image, par exemple ?
Oh, je ne sais pas, je n'ai pas le rapport en tête, mais c'est nous travaillons essentiellement de manière confidentielle. Alors après, effectivement, les médias ont choisi de diffuser ces éléments d'information. Ce sont eux qui les commandent dans la plupart des cas. Ce sont eux qui les couvrent, qui leur offrent un traitement médiatique particulier. On peut d'ailleurs regretter parfois une overdose de sondages, une avalanche de sondages, surtout en période électorale. Mais ce sont les médias qui décide ou non de publier ces enquêtes.
Nicolas Cassiaf, ils sont devenus, vous le disiez tout à l'heure, donc un élément du débat. Comment est-ce qu'ils contribuent à fabriquer l'opinion ? Il y avait un livre dans le temps qui s'appelait « Faire l'opinion » de Patrick Champagne, qui était resté très célèbre dans les milieux des sciences politiques. Est-ce qu'on peut faire l'opinion avec un sondage ?
Il faut déjà distinguer beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les sondages d'intention de vote, notamment ceux réalisés quelques jours avant un scrutin, qui là vise à mesurer ou à prédire un comportement qui va être effectif de la part des citoyens. Et donc on peut à ce moment-là pouvoir mesurer les écarts éventuels entre ce qui a été mesuré quelques jours avant le scrutin et puis les résultats réels. C'est assez différent des sondages d'opinion qui vont questionner les Français sur des questions d'intérêt général, qui sont commandées donc soit par des médias, soit par des think tanks qui vont s'en servir dans le débat public, parfois à des fins de lobbying, pour justement essayer d'influencer le débat et ou essayer d'influencer les décideurs. Et le but du jeu dans ces cas-là, c'est de donner à voir une opinion cristallisée sur un sujet permettant à un groupe de pression, un groupe d'intérêt, de dire aux décideurs, bah écoutez, allez-y, prenez telle décision parce que les Français ou l'opinion publique européenne sont favorables ou non à telle ou telle prise de position. Et c'est là que ça soulève la question de quel type de question précisément est posée, quel type d'alternative on offre aux sondés, dans quelle mesure on interroge les gens sur des sujets qu'ils sont déjà amenés à connaître. Est-ce que ce sont véritablement des opinions ou simplement des réponses un petit peu hasardeuses sur des sujets assez techniques? Et c'est surtout sur ce type d'enquête-là que se pose un certain nombre de difficultés sur leur utilisation dans le débat public, parce qu'on ne sait pas toujours précisément ce qu'on mesure, quelle en est la valeur et donc l'utilité.
Frédéric Michaud.
Oui, la distinction qu'a rappelée Nicolas Cassiaf est fondamentale. Les sondages d'opinion et les intentions de vote, ce ne sont pas la même chose, même si les deux sont réalisés par des instituts de sondage. J'ajoute que nous avons quand même toute une série d'éléments, de garde-fous qui nous protègent contre, qui protègent le citoyen contre d'éventuelles manipulations ou d'abus de stratégie, de manœuvre sur la base de sondages. Le premier, c'est évidemment l'action de la commission des sondages, qui contrôle l'ensemble des sondages ayant trait au débat électoral. Son champ de compétence a été élargi en 2016. Donc tous les sondages publiés, donc ceux qui sont dans le débat public, sont contrôlés par cette autorité indépendante. Et puis le deuxième élément, mais on pourrait en citer d'autres, c'est évidemment la concurrence entre les différents instituts. Il n'y a pas un seul institut de sondage, il y en a plusieurs. Et comme toujours, il faut multiplier les sources pour trouver une forme de vérité.
Une petite question qui n'est pas une petite question, parce que vous travaillez pour un institut de sondage qui a besoin de vivre, Frédéric Michaud. Un sondage politique, c'est la majeure partie des revenus d'un institut, ou il y a autre chose, ou c'est...
Non, absolument pas. La majeure partie des revenus des grands instituts de sondage sont liés à des études d'ordre marketing pour des entreprises diverses et variées, des grandes, des petites, des start-up en France et à l'international.
C'est surtout de l'économie, en fait. Hein.
Si je puis me permettre d'ajouter un point important, c'est que donc justement, de ce point de vue-là, les sondages publiés peuvent servir aux instituts d'une certaine façon à accélérer leur notoriété ou à montrer la qualité de leur travail à destination des clients qui, eux, vont commander des enquêtes confidentielles ou des enquêtes marketing. Et donc, de ce point de vue, ça contraint les instituts à ce que les sondages publiés, et notamment les sondages d'intention de vote, là où il y a une très forte attention sur la qualité des enquêtes, à faire en sorte de ne pas proposer un produit frelaté, parce que ça rejaillirait ensuite sur leur relation avec leur clientèle.
C'est un peu comme les grands avocats, en fait, hein, qui assurent la défense gratuitement de certains clients pour pouvoir se faire une publicité.
Oui, vous avez raison, c'est une logique de vitrine. Mmh. Et ce que dit Nicolas Cassiaf est très juste. Évidemment, les instituts sont très attentifs à tout cela, au-delà de leur déontologie. C'est leur image de marque qui est en jeu, et les intentions de vote, de ce point de vue-là, sont un produit phare, pour une raison simple, c'est qu'on peut comparer les résultats de l'élection, qui sont une donnée en dur, comme on dit dans les statistiques, donnée officielle, avec les résultats du sondage, et voir la performance de l'outil qui a été utilisé.
Ces sondages politiques, ils permettent aussi, et vous l'avez évoqué, Frédéric Michaud, aux médias de faire la distinction entre petits et grands candidats, parce que je ne vous cache pas que quand il y a 33 ou 34 listes, pour pouvoir faire parler tout le monde, c'est un petit peu compliqué. C'est quand même une influence importante en termes d'exposition, Nicolas Cassiaf.
Bah, disons, ça dépend aussi la manière dont l'élection va être cadrée, à la fois par les candidats eux-mêmes, qui vont définir précisément c'est quoi ce qui constitue une victoire électorale de leur point de vue, compte tenu de leur position, et puis par les médias dans le scénario, le récit de la campagne. Là, aujourd'hui, on voit bien à quel point la question de la première place a été posée comme l'enjeu déterminant de ce scrutin, donc entre le Rassemblement National et la liste LREM. Reste que, en soi, cet enjeu-là n'est pas fondamental ou déterminant du point de vue de ce qu'est cette élection, à savoir apporter des députés français au Parlement européen, là où se joueront les alliances, se négocieront la présidence et notamment la composition de la Commission. Donc en fait, c'est vraiment une question de grille de lecture, de grille d'interprétation que certains candidats arrivent à imposer, qui fait que on lira les sondages dans un sens ou dans un autre, et on leur accordera plus ou moins effectivement d'importance, parce que là, si les choses se jouent à un demi-point près pour savoir qui est en première place, effectivement, c'est déterminant, et c'est là que ça maximise toutes les susceptibilités des élus sur le caractère ou non manipulé des enquêtes, de l'influence supposée que ça aurait sur les électeurs, alors que toutes les enquêtes montrent que cette influence est globalement très faible. Enfin, en tout cas, on n'en a pas d'indice, de preuve que les sondages influenceraient massivement l'électorat, surtout dans un contexte multipartisan comme en France.
Oui, et on va rappeler qu'un demi-point d'écart à l'heure actuelle, c'est la marge d'erreur encore. On est dans la marge d'erreur, là, Frédéric Michaud. Oui. Un sondage régulier, mensuel, hebdomadaire et maintenant même quotidien, la pratique du rolling, comme on dit, a-t-il plus de valeur qu'un sondage ponctuel ? Je prends un exemple, on est entre deux campagnes présidentielles, disons, après 2 ans ou 3 ans de mandat, et soudainement, quelqu'un commande un sondage où est testé un nom qui n'avait jamais été testé auparavant, ou une question qui sort un petit peu de nulle part. Est-ce que il y a une continuité qui fait que ça paraît plus sérieux sur des enquêtes régulières?
Alors, le rolling est un outil qui est, de mon point de vue, beaucoup plus efficace que des baromètres ponctuels, justement parce qu'il lisse les effets de conjoncture. Voilà, sans entrer dans la technique. Mais pour rebondir sur ce que disait Nicolas Cassiaf, c'est très juste, et on voit bien que les sondages, sont l'objet d'un débat politique, justement parce que dans les campagnes électorales, chacun des acteurs en présence cherche à imposer une grille d'interprétation a priori des résultats. Par conséquent, les différents candidats cherchent à passer certains paliers. On voit bien qu'il y a le palier de 5% parce que c'est le remboursement des frais de campagne.
Ou avoir des élus.
Il y a le palier de 10% parce que vous avez un score à 2 chiffres. Oui. Et puis il y a évidemment le fait d'être en tête ou pas. Mais au-delà de ces niveaux, il y a aussi la question de la dynamique électorale. Progresser dans les sondages, c'est le signe pour les médias et par conséquent pour l'électorat que le candidat ou le parti politique profite d'une dynamique électorale. À l'inverse, baisser dans les sondages, c'est évidemment très mauvais pour les stratèges de campagne parce que ça démobilise l'électorat, ça décourage les supporters et les électeurs éventuels.
Vous avez parlé de la loi autour des sondages tout à l'heure, Frédéric Michaud. Est-ce qu'il faut davantage encadrer les sondages ou au contraire les libéraliser jusqu'au jour du vote pour lutter contre des rumeurs sur les réseaux sociaux qui se multiplient depuis quelques années, les Radio Londres et compagnie? Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Cassiaf?
Bon, à mon sens, c'est pas un débat déterminant. Alors effectivement, c'est vrai que l'ancienne législation qui empêchait d'avoir des sondages d'intention de vote longue échéance avant le scrutin posait problème, parce que ce sont des éléments d'information importants. On va dire que les données d'enquête qui seraient réalisées le week-end, dans quelle mesure elles pourraient influencer, modifier le comportement des électeurs, je pense que c'est vraiment une problématique très 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 secondaire.
Les sondages sortis des urnes, on pourrait imaginer qu'ils soient publics, Frédéric Michaud, ça pourrait être une idée?
Oui, alors en France, nous n'en faisons plus depuis plusieurs années pour des questions financières. Moi, je suis clairement favorable à la publication des sondages jusqu'au jour du scrutin, peut-être pas pendant le scrutin en tant que tel, mais en tout cas le samedi. Samedi, nous allons réaliser des sondages qui resteront confidentiels. C'est dommage, c'est une information que nous pourrions mettre à la disposition de l'ensemble des citoyens. Je ne vois pas effectivement en quoi ça pourrait avoir une influence sur le débat électoral.
Merci Frédéric Michaud, merci à vous également Nicolas Cassiaf d'avoir participé à cette émission en duplex de Lille. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission, participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour les dessous de l'Infox. Bonjour chez vous.